Vous entendez un bruit étrange et apercevez quelque chose de terrible. Êtes-vous prêt à connaître la vérité? La chaîne télé, Témoin, c'est bon en crime. Débrouillé dès le mardi 9 avril.
Pierre Nantel. Pendant que vous êtes sous les draps, on vous explique comment les acteurs de l'actualité se sont mis dans les beaux draps.
Vous écoutez Pierre Nantel.
On l'a bien vu dans l'actualité, vivre la pandémie en Suède et au Québec sont des réalités qui sont bien différentes, mais les choses pourraient changer alors que les autorités suédoises devaient annoncer de nouvelles mesures aujourd'hui, lundi. On va aller rejoindre un Québécois qui vit là-bas depuis 18 ans. Il est établi en Suède en tant qu'enseignant à l'école bilingue Montessori de Lund. Monsieur Philippe Longchamp. Bonjour, Monsieur Longchamp.
Bonjour, M. Nantel.
On est très heureux de vous parler. Puis d'abord, on doit vous dire qu'on est fiers parce que vous êtes professeur et vous avez gagné le titre de meilleur enseignant de l'année en Suède.
Merci beaucoup.
Bien, félicitations. On tenait à vous parler, bien évidemment, par rapport à la COVID, mais on peut vous dire aussi qu'on a beaucoup besoin d'excellents professeurs au Québec. Alors, n'hésitez pas. On a besoin de champions comme vous. Dites-moi, comment se vit la COVID là-bas très différemment par rapport au Québec?
Oui, c'est difficile à dire pour moi parce que je suis parlé au Québec depuis un an et demi, mais ici, on le vit dans une certaine normalité. Et puis, j'imagine que comme au Québec, ici, on est prudent, les gens essaient d'être responsables. Les Suédois, c'est des gens très pragmatiques. Et puis, on essaie de suivre les recommandations de l'Agence de santé publique suédoise.
Et quelles sont-elles, ces recommandations? Parce que les images qu'on voit de ce qui se passe en Suède, c'est que, somme toute, ça ressemble pas mal à la vie de tous les jours. Y a-t-il des différences importantes?
En fait, oui. Ça a changé beaucoup. Hein. J'imagine que quelqu'un qui arrive en Suède maintenant va trouver que bon, c'est complètement différent du Québec et puis il s'imagine que c'était comme ça auparavant, mais les choses ont changé ici aussi. Surtout au niveau, justement, du travail. Si on est le moindrement malade ou si on a le moindre petit symptôme, les gens restent à la maison. Les gens restent à la maison pour prendre soin des enfants. Donc, de l'absentéisme. Et puis, on encourage ces temps-ci, justement. Mais heureusement, la Suède, c'est un système, justement, qui permet de faire ça. C'est une social-démocratie qui fait en sorte qu'on a le moyen, justement, les moyens de rester à la maison si on est malade et de prendre soin de nos enfants aussi. Une bonne partie de notre salaire est payée, donc c'est pas une question d'essayer de sauver de l'argent. Des gens ils vont rester à la maison s'ils voient justement qu'ils ont le moindre symptôme. Et ça permet justement d'empêcher une propagation du virus. Mais c'est vrai, si on compare au Québec ici, il n'y a pas de port de masque obligatoire et puis il n'y a même pas eu le confinement obligatoire. Le confinement était sur une base purement volontaire et puis c'est si jamais on se sent malade, on reste à la maison ou si jamais on a peur ou on a des conditions physiques justement qui est à risque, on reste à la maison et puis les gens ont pris leur responsabilité eux-mêmes. Et il y a eu beaucoup de ratés au départ parce que les gens ne comprenaient pas comment le virus fonctionnait. Mais à l'heure actuelle, il n'y a même pas de recommandation de port de masque ici parce que les autorités de la santé publique n'encouragent pas les gens à l'utiliser, mais les gens qui veulent l'utiliser peuvent le porter, mais ils se sont rendus compte souvent que les gens qui portent un masque et qui se portent toujours les mains au visage pour le replacer, ça empire les choses. Ça protège moins que de ne pas en avoir.
C'était le discours initial, d'ailleurs, au Québec avec Horacio Ruda, qui déplorait le fait que si, par exemple, on prenait le masque, effectivement, on allait constamment y toucher. Par la suite, ça a créé toute la polémique que vous avez sûrement entendu parler à quel point on s'est déchiré là-dessus au Québec. Dites-moi, donc, vous avez parlé du fait que les Suédois sont de nature pragmatique. Est-ce que c'est la clé de cette approche qu'a eu de ne pas confiner la Suède, c'est au niveau de la discipline personnelle?
Oui, je pense que c'est un aspect culturel important. Et comme dans l'article du Journal de Montréal, récemment, il y a une Québécoise qui habite ici en Suède qui parlait justement d'une blague. Parce que si on le voit, l'Agence de santé publique recommande qu'on ait environ 2 mètres de distance entre chaque citoyen. Et puis, il y a une blague qui dit les Suédois ont hâte de pouvoir revenir à leur distance normale de 5 mètres. Parce que naturellement, les sociétés scandinaves comme ça, on a une bulle un peu plus grande qu'au Québec ou dans les pays latins. Donc, c'est pas très difficile pour le Suédois moyen de s'adapter justement à ces mesures de distanciation sociale-là parce que c'est déjà dans leur façon d'être.
Mais pourtant, je sais, pour y avoir été, que dans des villes comme Stockholm ou à Göteborg, il y a des cafés où il y a des grandes tables de réfectoire où tout le monde est assis côte à côte quand même.
Oui, puis c'est un peu comme ça aussi à l'école aujourd'hui. Nos élèves, c'est assez étroit dans les corridors. Et puis, dans une classe, il y a quand même très peu d'espace. Et les restaurants et les cafés sont ouverts, mais il faut juste faire confiance que tout le monde fait sa part, que si on se sent un peu malade, on va éviter d'aller là. C'est sûr qu'il y a toujours des individus qui ne veulent pas respecter les recommandations. Encore là, je généralise quand je dis que les Suédois sont pragmatiques et responsables. Je dirais la majorité, oui. C'est une population qui a une maturité politique, à mon avis, qui est très, très exemplaire. Mais on a quand même beaucoup de recommandations et puis beaucoup d'informations qui viennent pas seulement justement de l'Agence de santé publique, mais aussi de nos employeurs. Puis dépendamment où on travaille, ils encouragent le travail à la maison. Si on a moyen de travailler, comme ma conjointe travaille le plus souvent que possible à la maison. Nous, ici, dans les écoles, c'est plus difficile parce qu'ils n'ont jamais fermé des écoles ici en Suède. Juste l'équivalent des cégeps et des universités. Mais moi, je travaille dans l'équivalent d'une école secondaire. Et on n'a même pas eu une journée de fermeture. On a continué comme si de rien n'était. Et puis, il n'y a pas beaucoup d'absentéisme.
Mais monsieur...
Il y a eu quelques cas, et puis...
Mais M. Longchamp, donc, vous dites que vous êtes professeur à l'école secondaire. Vous savez qu'ici, par exemple, à Longueuil, un moment donné, il y avait deux écoles secondaires. Les deux principales écoles secondaires de Longueuil sur trois étaient fermées. C'est quoi la réalité? Est-ce que même les élèves, même les jeunes, ont ce côté pragmatique de dire « je pense que je me sens pas très bien, je suis mieux de rester à la maison »?
Oui. En fait, justement, ce matin, la première chose qui est arrivée, c'est que j'ai eu une élève qui est venue me voir, puis elle m'a dit « je suis pas sûr de bien me sentir », et puis j'ai dit « on prend pas de chance ». Normalement, j'aurais dans les temps normaux, j'aurais justement demandé, poser des questions, j'aurais téléphoné aux parents, mais maintenant, la règle, c'est non, on les envoie tout de suite à la maison. Et puis, je pense que, bon, on peut faire confiance aux jeunes. Je pense pas qu'ils ont, envie de faire l'école buissonnière, surtout à notre école, moi, j'ai l'impression qu'ils ont vraiment envie d'être avec nous. Et puis...
Monsieur...
On est un peu plus tolérant justement envers les gens qui ont besoin de rester à la maison.
Monsieur Longchamp, j'en reviens pas que je parle au meilleur professeur de Suède actuellement. Monsieur Longchamp, votre Horacio Arruda, votre médecin là, de la santé publique
Anders
en Suède,
Tegnell,
oui, Monsieur Tegnell était supposé annoncer certaines mesures nouvelles aujourd'hui. Est-ce que ça a été le cas?
Mais j'ai lu ça dans le Business Insider, mais c'est drôle parce que j'ai regardé dans les médias partout en Suède et puis j'ai rien vu à cet effet. Et normalement, c'est à 2h l'après-midi la conférence de presse quotidienne de l'Agence de santé publique qui est en charge justement de donner l'information. Ici, les Suédois ont complètement dépolitisé la question. On entend rarement le premier ministre Stéphane Löfven faire des discours comme Legault fait au Québec. C'est vraiment l'Agence de santé publique. Et puis les partis politiques, les sept majeurs principaux partis politiques qu'on a en Suède plutôt, se sont rangés derrière l'Agence de santé dès le départ. C'est sûr que maintenant, il y a certains partis qui disent qu'ils auraient fait les choses différemment pour des raisons un peu populistes. Mais en gros, je pense qu'il y a un consensus. Et puis ça, c'est très suédois de faire des consensus.
Avez-vous l'impression de... Oui, allez-y, M. Longchamp, continuez.
Non, c'est à vous, pardon.
Ben, moi, ce que je voulais vous demander, c'est avez-vous l'impression qu'il y a une espèce de jalousie, on aimerait coincer la Suède par rapport au risque qu'il a pris quand on dit, par exemple, qu'ils allaient annoncer des nouvelles mesures aujourd'hui puis que finalement, il n'y en a pas eu. Est-ce qu'on serait comme tous les autres pays, serait comme on attend de voir que vous avez fait une erreur de ne pas confiner? Y a-t-il comme une forme de jalousie internationale?
C'est l'impression que j'ai. Je pense vraiment qu'il y a beaucoup de pays, surtout des pays voisins, la Norvège et le Danemark, essaient vraiment justement de faire une mauvaise presse à la Suède. Et encore là, moi, je suis pas là pour juger, je suis pas un expert. Je suis content d'être ici, de vivre dans ces circonstances-là. C'est sûr qu'il y a toujours un peu d'anxiété, de peur, et puis je suis passé par là aussi. Ma fille a été testée à un moment donné, au début de la crise, parce qu'on était en vacances en Italie quand ça a commencé. Mais bon, on essaie de s'adapter. Puis la clé du succès, la clé de la survie, c'est d'être capable de s'adapter. Et ici, on s'adapte. Puis, par exemple, la directrice de l'école nous encourage maintenant à sortir dehors, à donner des cours en plein air. Et puis, on profite du bel automne ensoleillé qu'on a maintenant. Et autant que possible, on essaie de garder nos distances. C'est sûr que c'est difficile à appliquer avec des adolescents, mais je pense que il n'y a pas vraiment le prospect de retourner en confinement. Et puis, s'il y a des mesures de confinement, ça va être vraiment au niveau local ou dans certaines écoles qui vont fermer temporairement. Même l'équivalent des CHSLD ici en Suède ont déjà réouvert. Donc, les gens peuvent visiter les personnes âgées déjà. C'est sûr qu'il faut
réserver un temps de personnel, c'est ça.
Oui, exactement. Et au départ, c'était là la grande ratée de la Suède, c'est qu'on a mal géré les foyers pour personnes âgées. C'était les gens qui étaient malades étaient remplacés par des substituts et c'est eux qui ont emmené les virus dans les foyers. Et c'est parmi les 5000 morts et plus, c'est surtout des personnes âgées qui étaient dans les foyers.
Effectivement. Puisque la Suède est quand même toujours au 13e rang là, mondial au niveau de morts par million. Donc, c'était l'erreur initiale, un peu comme on a fait au Québec au niveau des CHSLD. Bien, monsieur Philippe Longchamp, merci beaucoup pour cet entretien. Et puis, continuez votre beau travail auprès des élèves suédois. Puis nous, ben, on est un peu jaloux. Merci.
Merci, M. Clantel. Au revoir.
Au revoir. Philippe Longchamp, qui est québécois, évidemment, et professeur établi en Suède depuis 18 ans à l'école bilingue Montessori de Lund.